Il est 13h. Merci de nous avoir choisi. Vous écoutez Europe 1.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai 60 minutes pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Aujourd'hui, on va vous ramener en enfance. On va tourner les pages du livre jeunesse et vous allez voir que les Français ont un vrai savoir-faire. Elle existe depuis 1934. La petite brûlerie est devenue grande. Malongo est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis organiser un événement, oui mais chez un particulier, c'est possible désormais grâce à WePeps. C'est la solution aujourd'hui, c'est la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez la parole comme chaque jour sur Europe 1. Venez nous dire si vous achetez par exemple des livres pour enfants. Vous pouvez évidemment aussi nous contacter sur Twitter.
Oui, Twitter avec le hashtag Europe 1. On lit d'ailleurs vos messages, vos témoignages, vos questions. Puis 39-21, le standard Europe 1, on rappelle, 50 centimes la minute.
Et oui, c'est le moment parce que se tient en ce moment et tout le week-end encore à Montreuil le salon du livre jeunesse, un marché qui a, c'est vrai, beaucoup chuté l'année dernière et qui cette année encore est en léger repli. Et pourtant nous avons chez nous, ici en France, des maisons qui donnent envie de se plonger dans la lecture et ce, dès le plus jeune âge. Alors, pour accueillir nos invités à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach du jour, c'est Mathieu Davy. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël.
Avocat et fondateur de Call a Lawyer. Dans le monde du livre, il y a un univers totalement à part, c'est celui de l'édition jeunesse, avec de petites maisons spécialisées, de très grandes aussi, qui ont créé des départements dédiés. C'est le cas de Flammarion. Bonjour Hélène Wadowski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes justement à la tête de Flammarion Jeunesse, que les enfants et les parents connaissent aussi, surtout grâce au fameux Père Castor.
J'éviterai de chanter, hein, parce qu'il est encore trop tôt.
Ah, je suis un peu déçue quand même.
Oui, je sais bien.
À l'époque, en 1931, si mes souvenirs sont bons, c'est Paul Fauché, c'est ça qui publie les premiers Père Castor ?
Tout à fait, votre mémoire est parfaite. Paul Fauché, en 1931, crée le Père Castor. Alors, je vais en deux secondes quand même vous situer un petit peu le contexte.
Oui, racontez-moi des histoires comme lui.
Oui, peut-être pas trop, mais je vais vous raconter l'histoire du Père Castor. Et c'est vrai qu'en 1931, nous sommes pas très loin du début du siècle. Et le début du siècle passé, l'école était très traditionnelle. Il y avait un maître ou une maîtresse, mais souvent des maîtres. Et puis une école, voilà, les enfants étaient assis, écoutaient, etc. Et en 31, avec le mouvement de l'éducation nouvelle, qui est apparu aussi en Tchéquie.
Avec Montessori notamment.
Montessori aussi, absolument. Donc cette école-là dit, bah non, les enfants, il ne faut pas qu'ils restent assis à écouter, il faut qu'ils soient actifs, il faut qu'ils pratiquent, il faut qu'ils exercent eux-mêmes. Et d'une pratique, ils vont en tirer un enseignement. Le livre du Père Castor, les livres du Père Castor sont nés dans ce contexte d'envie de remettre l'enfant au premier rang de l'éducation, mais nous, on ne fait pas des livres d'éducation, on fait des livres pour le grand public. Et le Père Castor a commencé à publier des livres avec un balai masque, etc., qui étaient des livres d'activité.
Alors justement, quand la marque arrive sur le marché, on s'intéresse surtout à l'époque, à ceux qui savent déjà lire. Et chez Flammarion, vous dites qu'il faut aussi aller chercher finalement les autres enfants, les tout-petits qui commencent à lire. C'est pour ça qu'on a des livres désormais de 0 à 6 ans.
Très bonne remarque. Absolument, c'est vrai que si on se rappelle des grands noms des collections de la jeunesse au début du siècle passé, c'était la bibliothèque Rouget Or qui était pour les enfants lecteurs, c'était la bibliothèque Verte, etc. Voilà, donc des collections pour les enfants lecteurs. Le Père Castor révolutionne ce qui maintenant, bien sûr, est une évidence absolue. Alors, il ne faisait pas des livres de bain, mais il faisait des livres, les premières histoires, hein, qui étaient les albums du Père Castor. J'espère qu'autour de cette table, il y a eu des lecteurs,
oui,
de Roule-Galette, Mishka, la vache orange.
Il y en a encore. Hein.
Bon, je reste, hein, parce que sinon je sortais. Merci, merci.
On a transmis, ne vous inquiétez pas.
Très bien. Eh bien, ces histoires parlaient à des enfants de 3-6 ans. Donc, l'idée de lire des histoires aux enfants, si aujourd'hui elle est même pas banalisée, elle est presque rentrée dans les mœurs, on a envie de dire, c'était quelque chose d'extrêmement contemporain et d'extrêmement nouveau.
Elisabeth, on va faire un petit point d'étape, hein, si
bien
vous,
oui,
le voulez bien.
Bien
il
sûr.
Se porte comment le livre jeunesse chez nous en
Alors,
France?
Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un léger repli, mais on a tout de même un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros en 2017. L'édition jeunesse se situe à la quatrième catégorie de l'édition en France, derrière la littérature, les livres scolaires et les sciences humaines et sociales. C'est un secteur qui représente 12,8% de part de marché. Alors, tout va bien. Là, c'était la première fois en 2017 qu'il s'est retrouvé en difficulté avec une baisse de tout de même 6,58% de son activité.
Bon, pas de raison de s'inquiéter quand même ?
Non, parce qu'un livre vendu sur 3, un sur 3, est destiné à la jeunesse et même un sur deux si on inclut la bande dessinée. Et en plus, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que les livres français se vendent extrêmement bien à l'étranger. Allez, je vous donne un chiffre. 4214 titres de jeunesse ont été cédés et c'est la Chine le premier acheteur. Même là-dessus, ils viennent nous chercher.
Alors, qu'est-ce qu'il dit notre coach? Est-ce qu'il lisait beaucoup de livres jeunesse quand il était enfant, Mathieu Davy?
Surtout, le coach dit merci parce que j'ai une petite fille de 2 ans et demi qui est totalement addict à Mishka. Alors, les DVD, parce qu'elle ne sait pas encore lire, évidemment.
Oui, mais c'est vous qui devez lire, Mathieu, attention. Hein.
Moi, je dois les lire et je vais lui lire, mais elle regarde les DVD, et notamment Mishka, ce petit ours qui prend sa liberté et qui prend son aliénation en allant à la rencontre des gens. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le verbe est très bien écrit. C'est intéressant de voir à quel point l'écriture est très bonne, parce qu'en fait, là, c'est des DVD, mais donc c'est lu, et c'est assez rassurant. Maintenant, c'est aussi très traditionnel, et c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la représentation de la société d'aujourd'hui? On voit beaucoup d'hommes, on voit beaucoup de blancs, on voit beaucoup de standards peut-être de l'époque.
Mais que dans Mishka, mais
et certes, ma fille apprend un très bon français et des très belles histoires avec ses DVD, mais est-ce qu'elle voit le reflet de la société?
Alors, Hélène Wadowski...
Alors, c'est une bonne remarque. C'est vrai que Mishka, que j'adore bien évidemment, a quand même été écrit il y a quelques 70 ans. Hein. Donc, nous pouvons respecter ce titre parce qu'il représente effectivement une figure emblématique de la littérature de jeunesse. Mais disons qu'aujourd'hui, nous n'écririons peut-être plus ce type d'histoire de la même manière. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que la littérature de jeunesse aujourd'hui, et chez nous aussi, chez Pacassoff, Flammarion, nous avons à cœur de faire extrêmement attention à beaucoup de choses. Alors, dans le désordre, je citerai voilà, on parle beaucoup des genre, mais c'est vrai que c'est extrêmement important d'en parler. On parle beaucoup de tout ce qui est les problèmes de société, ce qui est, voilà, après il faut savoir comment on en parle, est-ce que c'est dans le cadre d'un documentaire, est-ce que c'est dans le cadre d'une fiction, mais en tout cas la société d'aujourd'hui est présente dans les livres. Donc c'est vrai que les auteurs d'aujourd'hui vivent de manière contemporaine et ont à cœur d'en informer les enfants.
Alors justement, vous parlez des auteurs. Est-ce qu'il y a des choses que vous leur demandez de respecter? Est-ce qu'il y a une charte finalement aujourd'hui chez
non,
Flammarion?
Alors pas du tout. Il y a absolument aucun.
D'abord,
les livres ne sont pas. Les livres ne sont pas des commandes. Donc les auteurs écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. Moi, j'ai envie de dire que la seule petite remarque sur laquelle je serais attentive, c'est l'idée, par exemple, que dans un roman pour ados, mais on peut en discuter. C'est un sujet. Frédéric qui va venir tout à l'heure sera peut-être pas d'accord avec moi, et c'est bien, l'idée de se dire que le héros principal se suicidera à la fin du livre. Non, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai que je n'ai pas envie qu'on donne une idée désespérante de la vie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de choses désespérantes dans les livres. Non
oui,
plus.
Il faut savoir parler de tout, y compris aux plus petits. On reste ensemble, on continue à parler du livre jeunesse sur Europe 1.
Il est 13h08.
De grandes maisons connues dans le monde du livre, mais aussi de plus jeunes qui investissent le champ jeunesse. C'est le cas de Sarbacane qui existe depuis 15 ans maintenant. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge. Et avec vous, Raphaël Duchemin, on parle du livre Jeunesse en France. Un livre sur deux est dédié à la jeunesse. À l'occasion, notamment, tient du Salon du Livre aussi à Montreuil, hein, qui a ouvert ses portes il y a 2 jours, jusqu'au 3 décembre. Alors dites-nous si vos enfants ont une passion pour la lecture, pour les livres en général, et comment ça se manifeste. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore au 3921, le standard d'Europe 1.
Et oui, les petites maisons d'édition peuvent-elles exister à côté des grandes? La réponse est oui. Et vous en êtes la preuve, Frédéric Lavabre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé en 2003 les éditions Sarbacane.
Il y a 15 ans.
Ouais, d'abord avec Actes Sud, puis ensuite tout
seul.
Non, pas
avec Actes Sud. En fait, Actes Sud était notre diffuseur.
Vous soutenez,
voilà,
ouais.
C'était notre diffuseur. La maison, je l'ai créée tout seul à 100%. Et donc, quand on crée une maison, quand on fait des livres, on a besoin d'un diffuseur. Et donc, c'était Actes Sud qui nous a accompagnés pendant 7 ans.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de voler de vos propres ailes dans ce milieu où, c'est vrai, il y a quand même de grandes maisons qui règnent?
Oui, il y a des grandes maisons qui règnent. En fait, moi, je suis directeur artistique au départ. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le livre pour toutes les grandes maisons, Le Seuil, Gallimard, etc. Et puis, au bout de 15 ans, à 40 ans, j'ai eu envie de faire autre chose. Et je suis allé naturellement vers deux arts qui, moi, m'ont toujours passionné, c'est-à-dire la littérature et le dessin. Et je suis allé vers ce merveilleux objet qui est le livre jeunesse.
Oui, c'est aussi parce que vous avez 4 enfants, ça vous a peut-être un petit peu aidé.
Alors, c'est vrai,
à vous
c'est
guider
vrai,
sur ce chemin-là.
Non seulement j'ai 4 enfants, mais j'ai 4 filles. Et depuis un mois, j'ai une petite fille qui s'appelle Léonie, que je salue au passage. Elle ne m'entend pas, mais je la salue quand même. Et on lui lit des livres, hein, cher monsieur. Léonie, même un mois, hier soir, elle a lu son premier livre.
Ça, c'est pour notre coach,
sortant,
Mathieu David.
Je vous montrerai la photo, on a déjà la photo avec le livre. Voilà, donc c'est vrai que ce qui était assez amusant, d'ailleurs, quand j'ai démarré la maison d'édition, c'est que j'avais un enfant dans chaque secteur, si je puis dire. J'avais la maternelle, le primaire, le collège et le lycée. Donc là, vraiment, j'étais paré pour
vous
tester.
Vous aviez le public pour tester.
J'avais
oui.
le public.
Dites-moi, le livre enfant, c'est, on le disait tout à l'heure, un univers à part, parce qu'il y a le dessin et l'écrit. C'est ça aussi qui est intéressant, finalement. On est à la croisée de deux chemins.
On est à la croisée de deux chemins. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, venant justement de l'image, puisque j'étais directeur artistique, j'ai mis vraiment le texte au cœur de la démarche d'éditeur. Et pour cela, j'ai fait venir une éditrice, qui s'appelle Emmanuelle Bulk, directrice éditoriale. Et vraiment, le souci pour moi a toujours été que c'est comme un bon film, ou comme une bonne BD, sans un bon scénario ou sans un bon texte, on peut mettre la meilleure image possible, ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment le texte qui architecture, qui donne son ossature à un album. Et ensuite, évidemment, l'image n'est pas un habillage, c'est évidemment quelque chose qui vient aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que la partie immergée de l'album, c'est toujours l'image. En librairie, ben, ce qu'on voit, c'est une belle image, elle vous plaît, vous plaît pas, elle vous touche. Mais en réalité, ce qui va faire un bon album, c'est beaucoup le texte.
Alors justement, qu'est-ce qui marche, Elisabeth ? Et puis je vous poserai la question évidemment à tous les deux après.
Comme pour les livres classiques, hein, il y a un top des ventes dans les livres pour la jeunesse. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que finalement, ce sont souvent les classiques qui ressortent. Hein. Il y a des petits livres à la mode par-ci, par-là. Mais par exemple, Harry Potter qui existe depuis 20 ans, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est le livre jeunesse le plus vendu en 2018. C'est même devenu une référence hein, pour les parents. On ne sait pas quoi offrir. On va offrir Harry Potter. Ouais, en seconde position.
Je vous confirme parce que mon fils de 7 ans est en train de le lire. Donc.
Ah, bah, c'est tôt, non, 7 ans ?
Écoutez,
il est très précoce. Et en seconde position, vous avez Vendredi ou la vie sauvage. Vendredi ou la vie sauvage, ça existe depuis 1971. C'est dans le programme de 5e et pourtant, ça arrive en seconde position. Chez les tout-petits, vous avez des best-sellers comme La couleur des émotions qui est sorti en 2012, ou encore Le loup qui apprivoisait ses émotions, qui se positionne très largement en haut des ventes jeunesse.
Hélène, Frédéric, il y a des livres comme ça qui traversent le temps.
Moi, je veux bien répondre sur Vendredi ou la vie sauvage. Oui. Il y a un texte absolument magnifique qui transcende tous les âges. Hein. Je pense qu'on ne peut peut-être pas le lire à 2 ans. Bon, d'accord, vous avez le droit de lire Mishka, mais peut-être pas encore Vendredi ou la vie sauvage à votre fille. Mais en tout cas, Vendredi ou la vie sauvage, c'est un exemple parfait parce que c'est un exemple très transgénérationnel. Les parents l'ont lu, les grands-parents l'ont lu et les gamins aujourd'hui se régalent quand ils ont à le lire.
Ça peut devenir un moment de partage.
Ah oui, complètement. Nous, chez Flammarion, on l'a publié avec une version illustrée par Ronan Badel, donc en version vraiment un grand livre illustré. Tout à l'heure, Fred, tu parlais du poids de l'image. Ben là, c'est vrai qu'incarner ce Vendredi que tout le monde connaît a été un moment de grand plaisir et pour l'illustrateur qui était fou de joie qu'on le lui propose et pour le public. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a des œuvres qui peuvent aussi trouver une actualité ou une nouvelle manière d'être mise en marché.
Oui, c'est pareil pour vous, Frédéric
Lavabre. Oui, c'est pareil pour moi. Alors évidemment, Harry Potter, je crois qu'il faut un peu le sortir, si je puis dire.
Oui, il fait figure d'exception.
Non, mais c'est un peu ce que est Astérix à la BD, quoi. Une année avec Harry Potter, une année avec Astérix. Voilà. Donc ça, c'est des phénomènes qui dépassent complètement même le livre. Ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi une édition à deux vitesses. Il y a, comme au cinéma, il y a ce qui est plus blockbuster, il y a des choses qui sont plus, on va dire, cinéma d'auteur ou édition de création comme Sarbacane. Nous, par exemple, on a un best-seller en train, c'est les riches heures de Jacobinus Gainsbourg ou de Rebecca d'Outremer, qui est une star, une des rares stars de l'édition jeunesse. Un album magnifique, on est en train de le réimprimer.
C'est un petit lapin, c'est ça ?
C'est l'histoire d'un petit lapin, mais c'est l'histoire d'une vie surtout, avec un travail magnifique d'une auteure qui a une grande histoire d'édition derrière elle, mais qui est venue chez Sarbacane pour chercher autre chose, etc. Voilà. Donc ça, c'est un best-seller, mais à la hauteur de Sarbacane et à la hauteur de Rebecca. On ne parle pas de Harry Potter, évidemment, ou d'Astérix, quoique, on ne sait jamais.
Pourquoi ? Que dit notre coach Mathieu Davy ?
En fait, c'est intéressant parce que les enfants adorent les livres. Moi, ma fille, je leur en parle,
elle a
des livres depuis l'âge de 1 an. Et elle a déjà une petite bibliothèque. Quand je regarde dans sa chambre, c'est assez impressionnant. Elle a lu beaucoup Les Petits Ours Bruns, par exemple, ou Les Papa Papa en ce moment. Et ça prouve qu'en fait, c'est évidemment universel et transgénérationnel que de lire notamment des livres assez anciens. Et ça marche très très bien, et ils sont assez fans de ça. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller vers des produits nouveaux, ou notamment américains. Il y a des éditions anciennes qui
je vous arrête, moi je ne fais pas des produits déjà, non. Je fais des livres. Et de toute façon, ce n'est pas les enfants qui aiment les livres, c'est les parents qui aiment les livres qui amènent aux enfants. Et les enfants les aiment évidemment.
Donc, c'est vraiment espace de transmission.
Voilà, je vous assure qu'il y a des livres tout à fait contemporains, Mishka c'est formidable, mais il y a des livres de création qui sont tout aussi bien aujourd'hui. Évidemment, les produits c'est autre chose.
C'est de la curiosité avant tout hein, je pense. La lecture c'est aussi de la curiosité.
C'est d'abord de la curiosité de la part des parents, de la part des éditeurs aussi qui sont à la recherche de de nouvelles pépites, de nouveaux auteurs, et c'est ce qu'on fait tout au long de l'année.
Vous sortez combien? 100 livres par an?
On sort une centaine de livres par an, ça fait 3 ans qu'on est sur 100 livres, on essaie de réduire un peu notre production pour les rendre plus apparents. Et ça se répartit 50 en albums, 25 en BD et 25 en romans.
Et alors justement, le critère de différenciation, quand on existe à côté d'une grande maison comme Flammarion, Père Castor, qu'est-ce que c'est?
Notre maison en nombre de titres, nous on publie 150 titres par an, on réduit également chaque année, nous sommes des gens très vertueux par rapport à la librairie. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que vous citiez Mishka, mais Dieu merci, dans ma journée, je ne fais pas que réimprimer Mishka, sinon je m'ennuierais ou alors je serais aux Seychelles, je ne sais pas. Mais on fait aussi des créations. L'idée d'avoir une maison qui est ancienne est un avantage et un inconvénient. C'est vrai que c'est un avantage parce que tout le monde la connaît et c'est un inconvénient parce que les gens la tirent vers le passé. Mais je vous rassure, on fait des belles créations avec des auteurs contemporains et des illustrateurs contemporains tous les jours.
Le Harry Potter permet à Gallimard de faire de la création. Mishka permet pour toi de faire de la création. Et des titres, par exemple, pour moi, comme Moi j'attends, permettent aussi de faire de la création.
C'est une forme de trésorerie.
En quelque sorte.
Oui, c'est vrai.
Mais partagé avec les auteurs, je précise.
Bien sûr.
Allez, on continue à partager dans un instant. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1.
Il est 13h19. Europe 1.
Lancer un nouveau concept qui plaise aussi aux enfants, c'est le pari de quelle histoire et de ses créateurs. Et vous allez voir que ça fait un tabac. À tout de suite.
Chaque jour sur Europe 1, du lundi au vendredi, la France bouge de 13h à 14h avec Raphaël Huchemin. On s'intéresse aujourd'hui au livre pour la jeunesse, l'édition jeunesse fourmille d'inventions. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur, à moins que ce ne soit les coups de cœur des enfants qui vous entourent. Posez aussi vos questions à nos invités pour se faire le 3921, le standard d'Europe 1, ou encore Twitter avec le hashtag Europe 1.
Toujours avec Elisabeth Assayag et avec notre coach du jour un peu malmené sur la question du livre.
Normalement, c'est l'inverse.
Bon, il va se défendre, il est avocat, normalement ça devrait aller. Comment intéresser les enfants à l'histoire sans que ce soit rébarbatif? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, c'est le pari qu'a fait Albin Quéru. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé il y a 8 ans maintenant les éditions Quelle Histoire. L'histoire, c'était votre passion?
Absolument. Alors en fait, moi je viens des arts appliqués à l'origine, mais je suis passionné d'histoire depuis tout petit. Et c'est vrai qu'on a eu envie en fait de travailler sur un univers autour de l'histoire pour intéresser les plus jeunes à notre patrimoine culturel et historique.
Et qu'est-ce qui vous a servi de déclic?
En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu la sortie de l'iPad en 2010, parce qu'à l'origine, en fait, on n'était pas un éditeur traditionnel. On a commencé par faire des applications. Et puis les réformes du programme scolaire. Il y a eu un moment donné, en fait, en 2010, où on a sorti les grandes figures du programme scolaire d'histoire des primaires pour aller plutôt sur des concepts. Et il se trouve que moi, j'étais venu dans l'histoire. Je me suis passionné d'histoire à cause de Charlemagne, Napoléon, etc. Et je trouvais que c'était un angle intéressant pour capter en fait, les plus jeunes.
C'est comme ça qu'est né le premier, c'est-à-dire Napoléon, en l'occurrence.
Absolument, en application.
Vous êtes allé chercher des partenaires très vite? Comment vous avez fait?
Absolument. Quand on a démarré, on n'avait pas du tout d'argent. On était trois, donc Romain Jubert, Bruno Vénagel et moi-même. Et du coup, pour nous aider à développer les premiers projets, on a travaillé avec la Réunion des musées nationaux, avec Historia, avec Gulli, tout un tas de partenaires qui nous ont aidés à cofinancer les premières applications.
Et aujourd'hui, on est 8 ans après, vous avez réussi à décliner tout un tas de personnages, de périodes d'histoire. Vous avez fait des levées de fonds entre-temps, comment ça s'est passé?
On a fait 2 levées de fonds. Les 2 premières levées de fonds, en fait, l'objectif, c'était de développer toute la partie digitale, qui est un marché en fait assez compliqué, qu'on pensait très porteur au démarrage et sur lesquels, à certains moments, on s'est cassé les dents. Donc, 2 levées de fonds pour nous permettre de développer un framework technique assez solide, en fait, pour déployer nos univers. Et puis ensuite, traduire en plusieurs langues, être présent sur différents stores.
Oui, vous êtes passé donc du monde digital au monde papier, à l'édition. C'est l'année 2014, je crois, qui a vraiment été charnière.
Absolument. Le virage, c'est l'année 2014. En fait, on fait des premiers livres. Donc, à l'époque, on cherchait un éditeur, en réalité, et personne n'a souhaité nous éditer. On nous expliquait que l'histoire, c'était un marché de niche assez compliqué, notamment pour les enfants. Et du coup, on n'a pas trouvé d'éditeur. Donc, on est devenu éditeur. Ensuite, on n'a pas trouvé de diffuseur. Donc, on s'est autodiffusé, dans un premier temps, dans les boutiques de la Réunion des musées nationaux. Ça a plutôt bien marché. Et suite à cette expérience, on a fait un salon qui est Kid Expo.
Kid Expo, oui.
Où on s'est rendu compte que les livres marchaient super bien. Enfin, vraiment, les enfants, ça leur plaisait. Ils allaient directement vers les ouvrages. Il n'y avait pas besoin que les enfants les poussent, en fait. Et de là, s'est développée ensuite la collection de livres.
Aujourd'hui, ça marche très bien. Vous êtes bien diffusé, très bien diffusé à Paris. Est-ce que c'est pareil en Provence?
Aujourd'hui, on est bien un peu partout en France. On a eu un premier diffuseur, donc une fois que ça a commencé à marcher, on a travaillé avec Cap Diffusion, puis avec Atier.
Vous écrivez toujours vous-même ou non, vous avez arrêté?
Alors j'écris presque plus, un petit peu, mais presque plus.
Pour des personnages qui vous passionnent?
Non, surtout en fait plutôt sur les nouveaux projets. C'est-à-dire que quand on sort un nouveau format d'ouvrage, on va travailler sur le calibrage, sur le nombre de mots, sur le champ lexical associé, ou quand on travaille sur les jeux, parce qu'on fait aussi des jeux de cartes sur la chronologie notamment, où on a travaillé sur un calendrier perpétuel, par exemple avec Playback. Là, en effet, je me mets dans la conception du produit et donc je prends la plume.
Elisabeth, on s'en rend compte hein, autour de la table, mais pas seulement, il y a énormément de maisons d'édition.
Il y a des maisons d'édition françaises dédiées à la littérature pour la jeunesse. Alors, je vous en cite quelques-unes. Oui. L'École des loisirs, que nous connaissons tous, qui existe depuis 1965. Ils étaient quand même très précurseurs. Hein. Et les éditions Milan, qui sont situées à Toulouse, ou des plus récentes, comme par exemple à Pas de Loup, une maison d'édition qui a été créée en 2013. Et puis évidemment, vous avez les maisons plus traditionnelles, hein, vous les représentez, madame. Vous avez aussi Albin Michel Jeunesse.
Non, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que je suis traditionnelle, mais je vous en parlerai après.
Grasset Jeunesse ou encore Actes Sud Junior. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'était plus classique.
Oui, en tout cas, vous êtes là depuis longtemps. C'est, voilà, c'est ça, dans les années 30 quand même. Donc, effectivement, c'est vous qui détenez la palme en France.
Vous aviez été très précurseur
sur la littérature jeunesse.
En 90, en jeunesse, je pense.
En jeunesse aussi. Mathieu Davy.
Alors, il faut voir que la réglementation sur les publications sur la jeunesse, évidemment, est très stricte et elle a évolué depuis des années. Elle est le reflet aussi de l'évolution de la société. Je vais vous donner un exemple assez sidérant. Un arrêt du Conseil d'État en 1956 avait sanctionné une publication qui mettait en avant l'homosexualité, considérant que l'homosexualité, faire l'apologie de ce vice, c'était se montrer licencieux. C'était il y a 60 ans. Ouais. Et ça pose aussi les questions, donc puisqu'on parle aujourd'hui de maisons qui se disent modernes, et là on ne parle plus d'histoire, est où aujourd'hui de ça? C'est-à-dire qu'il y a des interdictions, mais il y a aussi une morale, et il y a aussi une manière de représenter la société. Alors on en est où à ce stade?
Alors je vous propose qu'on prenne un petit temps et qu'on se retrouve dans un instant sur Europe 1, bien sûr.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et aussi avec vous, 39-21, on attend vos questions. Venez les poser à nos invités. C'est la France qui bouge. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 à l'occasion de la 34e édition du Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil jusqu'au 3 décembre. Eh bien, on a décidé de parler de l'édition jeunesse aujourd'hui avec Raphaël Duchemin. N'hésitez pas à faire part de vos témoignages, à poser aussi vos questions grâce à Twitter, hashtag Europe 1 ou encore au 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute.
Nous sommes avec nos invités Hélène Wadowski, directrice du département jeunesse chez Flammarion, Frédéric Lavabre, fondateur des éditions Sarbacane, et Albin Quéru, cofondateur des éditions Quelle Histoire, toujours avec notre coach Mathieu Davy aujourd'hui et avec Elisabeth Assayag. Mathieu, vous avez posé une question qui mérite qu'on s'y attarde. Est-ce qu'aujourd'hui, on a évolué finalement sur des questions comme celle de l'homosexualité qui pouvait poser problème dans le monde de l'édition il y a un certain nombre d'années, pas si lointaine d'ailleurs, hein, une soixantaine d'années tout simplement.
Hélène Wadowski. Je vais bien commencer à répondre. D'abord, votre question est très bonne. Mais
merci.
Je pense que merci à vous de l'avoir posée.
Ça va mieux.
Mais je pense que
il est content parce que c'est allé pas au début.
En 50 et des brouettes, poser des problèmes aussi dans la société civile, pas que dans le livre jeunesse, c'est ce que je veux dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine du livre jeunesse, alors c'est vrai qu'on publie des livres de 0 à 18 ans. Hein. La jeunesse est quand même, s'étend sur une tranche d'âge assez élevée. Je crois qu'il n'y a pas de censure de sujet, il y a des manières de bien présenter les choses. Je pense que c'est vraiment notre rôle d'éditeur à nous, c'est de savoir comment on parle des projets. C'est pas de se dire tiens, on parle pas de ça ou on parle pas de tel sujet. Ça, je crois que c'est plus possible aujourd'hui. Mais par contre, trouver des auteurs qui ont envie de bien parler d'un sujet, c'est ça notre rôle à nous. Hein. Je veux dire, c'est vraiment nous publions aujourd'hui des livres pour les lecteurs d'aujourd'hui et de demain. Et donc on a absolument intérêt et on a l'envie de leur parler de la manière la plus large possible.
Frédéric Lavabre.
Oui, enfin bon, nous on publie des auteurs. Donc si un auteur qui n'est pas homosexuel a envie de parler d'homosexualité, il peut le faire. Si un auteur hétérosexuel.
Il n'y a pas de tabou, y compris tabou. Pour la jeunesse.
Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer. Nous, on a envie de les publier. Et après, je ne suis pas sur des sujets. Je suis sur des objets littéraires et graphiques, quand c'est des albums. Ensuite, l'auteur, par exemple, je reprends l'exemple de Jacominus. C'est l'histoire d'une vie, mais c'est l'histoire d'un petit lapin. Mais c'est aussi l'histoire d'une vie que l'on va suivre pendant 12 double pages. Si je prends Brixit Romance, un roman de Clémentine Beauvais, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, cantatrice, qui part à Londres pour une représentation, pour une soirée, et en même temps, ça nous parle du monde d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, ça nous parle du Brexit, ça nous parle de la différence entre les jeunes européens, et dedans, il y a l'histoire d'amour, il y a l'histoire d'amour entre une jeune fille et un homme qui est moins jeune, etc. Peu importe, ce qui compte, c'est la qualité du texte, la qualité de l'auteur, et la façon dont nous, on a envie de le porter.
Albin, même constat chez vous, c'est un peu différent parce que ce sont les personnages historiques, mais... Quand même.
Même constat, pas de censure constatée, si ce n'est celle qu'on s'impose à nous-mêmes. Et quand je dis censure, c'est plus, en effet, trouver le bon angle pour parler de choses qui peuvent être un peu compliquées.
Surtout en histoire, il y a quand même pas mal de...
Il peut absolument. Y avoir pas mal de controverses. Oui.
Absolument, sujet, hein. Absolument. Mais en plus, bon, toutes les fins sont parfois tragiques. Je pense à Jeanne d'Arc, oui. Même à Napoléon. Bah, la seule chose pour nous, c'est de trouver l'angle au niveau du texte, mais aussi au niveau de l'illustration, pour pouvoir faire passer...
Le message,
sans pour autant
et la réalité de l'histoire.
Sans pour autant dénaturer la réalité de l'histoire.
Alors j'ai des questions évidemment pour vous ou en tout cas des remarques. Vous avez mis en avant, me dit Jean-Xavier Allois sur le hashtag Europe 1, la semaine dernière, le savoir-faire français en matière de films d'animation, même pas cette semaine d'ailleurs.
Il y a deux jours.
Oui, le temps passe vite. On les retrouve souvent en version livre. Ceci explique cela. Alors,
moi, je ne peux pas répondre parce que moi, je ne fais pas des produits pour le coup. Par contre, on a des...
collaborations ?
Non, on a des collaborations sur des créations d'auteurs qui, ensuite, il y a des maisons de production qui viennent nous voir pour développer en animation. D'ailleurs, on était à Los Angeles au Shoot the Book où on a présenté des livres qui pourraient être en animation ou en film ou en série.
On a Alex qui nous dit « Plus jeune, j'adorais lire des livres en tout genre car je suis de nature curieuse, mais l'histoire que j'ai particulièrement aimée, c'est celle de Clément de 7-0. Je vous la conseille. » Ah, alors est-ce que quelqu'un connaît
Désolé,
Clément ?
On peut parler peut-être de la difficulté que les enfants commencent à rencontrer quand ils ont 8-12 ans. Ça, voilà, c'est un sujet parce que
c'est
Clément
le
07, je ne connais pas. Non, une espèce de désaffection de la lecture qui pourrait intervenir. Tout à l'heure, donc, notre charmant collaborateur nous disait qu'effectivement, on pouvait lire à tous les âges. Mais bien sûr, on peut lire à tous les âges, mais quelquefois quand même vers 8-9 ans. Sans stéréotypes, sans... Voilà. Mais ça arrive que les enfants se détachent un tout petit peu de la lecture.
À l'adolescence, un peu avant peut-être
Avant, 8-9 ans. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents, c'est ficher la paix à vos gamins. Je veux dire, si un enfant a envie de lire L'Équipe, eh ben, il lit L'Équipe. Mon garçon lisait L'Équipe et après il a repris la lecture et il a lu d'autres choses, etc. Il ne faut pas s'interdire.
Peu importe le support, il faut que la lecture continue. C'est ça le message.
Non, là, ouais, c'est là où la grosse difficulté en fait en réalité, c'est la concurrence des autres plateformes de fiction notamment. On pense aux séries. Et c'est vrai que quand un enfant ou un adulte, nous on est pareil. Et d'ailleurs, la jeunesse tient encore, et c'est vrai que vous l'avez noté, elle décroît un tout petit peu. Et c'est quand même très 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 nouveau et c'est un peu inquiétant. La BD suit le même chemin. Il y a une vraie inquiétude de la part des éditeurs. C'est parce qu'on est tous collés à nos écrans, le soir à nos séries. Et c'est vrai que quand on a vu deux, trois épisodes d'une série, je ne suis pas sûr qu'on va se jeter, nous-mêmes adultes, sur un roman complexe. Voilà. Alors c'est vrai que ça, c'est une vraie difficulté et les enfants n'échappent pas, les jeunes n'échappent pas à cette règle-là qui est la profusion des propositions de fiction audiovisuelle.
Quand on prend une bande dessinée, un manga par exemple, qu'on est moins attiré vers un livre traditionnel, hein, pardon Hélène Nadowski, est-ce qu'on peut y revenir par la suite ?
Mais alors,
l'essentiel,
c'est qu'on
garde
je vous arrête
le support
tout de suite,
lecture.
C'est-à-dire que la bande dessinée est un livre. Un manga est un livre, L'Équipe, c'est de la lecture, c'est pas un livre, mais c'est de la lecture. Donc évidemment, moi je publie de la BD jeunesse, c'est-à-dire j'ai un livre Stieg et Till qui est sélectionné à Angoulême, en jeunesse, avec un auteur de qualité. Moi, j'ai lu de la BD pendant hyper longtemps. Je suis rentré dans la BD Paralix, Blueberry, etc. Puis je suis allé vers la littérature, je suis revenu à la BD. Enfin, je veux dire, la lecture, c'est la lecture.
Même constat chez vous, Albin ?
Oui, oui. Puis je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'adolescents qui lisent par rapport à ce qu'on leur fait lire à l'école. Et peut-être, parfois, la marche est trop élevée. Moi, je sais qu'au collège, j'ai beaucoup d'amis qui ont décroché parce que commencer par Flaubert ou Zola, ça peut être compliqué. Peut-être que... Vu que c'est une des portes d'entrée, c'est à l'éducation nationale aussi de travailler sur des programmes de lecture peut-être plus accessibles, en tout cas au collège, pour éviter de décrocher.
Le mot de la fin pour Mathieu Davy, qui a une petite fille de 2 ans. Vous allez lui faire commencer par quoi, tiens, la lecture ?
Le mot de la fin, c'est que l'art, c'est le véhicule qui permet de lutter contre les discriminations. Donc c'est un peu facile de dire, je laisse mes artistes faire un peu ce qu'ils veulent. On a aussi une responsabilité, peut-être quand on est éditeur, de faire passer des messages. Et aujourd'hui, dans une société où on a des discriminations, peut-être qu'il y a aussi une responsabilité que de prendre des auteurs, il y en a plein qui sont engagés, qui font passer des messages, de remettre en avant la société. Et moi, c'est vers ce type de contenu que j'irai, et ceux que j'achèterai à ma fille en tout cas, qui montrent une société multiple, qui montrent une société de 2018. Et moi, c'est plutôt ça que ça
m'inspire. Bienvenue dans le catalogue Sarbacane.
Hein. Eh ben voilà.
Vous avez
de quoi faire autour de vous. Merci à tous d'être venus parler du livre jeunesse aujourd'hui sur Europe 1.
Merci à vous.
Merci.
Il est 13h38. Europe 1. Ils ont créé leur brûlerie à Nice dans les années 30. Le café Malongo est aujourd'hui incontournable et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge se poursuit à 13h41. On tourne une page après l'édition jeunesse. L'entreprise qui va bien avec vous, Raphaël Duchemin. Vous nous proposez un petit café maintenant, je crois.
Ah oui, cette entreprise fait partie de notre mémoire collective. Hein. Oui, j'ose le dire, on connaît tous les boîtes. Alors, moi, la mienne, à l'époque, elle était dorée et verte avec le nom écrit en noir, Malongo, dessus. Bonjour Jean-Pierre Blanc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez aujourd'hui Malongo depuis 1980, c'est ça? Mais vous étiez déjà dans la société depuis 5 ans, voilà, quand vous avez repris les rênes.
Donc je crois que je suis le plus vieux directeur général de France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait autant d'heures de vol.
Bon, Malongo, c'est l'histoire d'une brûlerie traditionnelle à Nice, qui va se développer de manière totalement extraordinaire.
Oui. Elle a été créée en 1934, et c'est une histoire un peu amusante, parce que c'est un petit torréfacteur qui a commencé à sortir de ses frontières par une émission radio qui s'appelait le Pastrouille de Tante Victorine. C'était dans les années 50-53, et c'était un peu les nuls de Canal, c'est-à-dire c'est une critique de la société niçoise avec des critiques politiques, et ça se terminait, et bien on va boire un bon café Malongo. Donc c'est comme ça qu'on est sorti de nos frontières, et depuis ça n'a pas arrêté.
Bon, et alors dites-moi, comment est-ce qu'on passe justement notre petite brûlerie, comme ça, un véritable empire aujourd'hui?
C'est toujours une histoire de rencontre qui, pour moi, est importante. La société, c'est une société familiale, donc avec des valeurs fortes, qui ne sera pas vendue, qui restera dans le patrimoine et qui a des valeurs autour du commerce équitable, l'agriculture bio. Je suis tombé dedans en 1992 avec une rencontre qui a marqué ma vie.
Max Avelar,
le cofondateur avec le père Francesco van der Hoff, qui est docteur en théologie, docteur en économie, qui était un révolutionnaire de l'économie et qui a coordonné des Indiens Zapotec et Chontales dans la partie du Mexique à côté de la ville d'Ixtepec, donc la zone étroite du Mexique, et qui a décidé de vendre ce café bio à un prix plus cher sur le marché hollandais au départ. Et c'est comme ça qu'a démarré l'histoire de Max Avelar, l'histoire du commerce équitable et cette extension qu'il y a eu sur ce nouveau modèle économique qui fonctionne aujourd'hui très bien et qu'il faut peut-être expliquer.
Ah oui, mais vous avez été le premier finalement à lancer le café équitable.
Oui. 1992 et 97, on a sorti la première boîte qui est le café des petits producteurs.
Des petits producteurs.
Voilà, qui est connu, qui est leader du marché aujourd'hui.
Vous en vendez combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous faisons à peu près 4500 tonnes de café de commerce équitable, agriculture biologique. Ce sont des cafés que je travaille principalement en filière. Donc, je rentre de pays producteurs. Là, je rentre du Laos, où on a une très belle expérience, de Birmanie. Je repars en Éthiopie. Et j'essaie de regrouper des petits paysans, un système démocratique, ouvert, dans lequel ils vont acquérir leur autonomie avec un prix minimum et surtout des primes sociales qui leur permettent de faire du collectif.
Ah, ça, je suis sûr que ça va plaire à notre coach, Mathieu Davy.
Alors, ça me plaît, mais en même temps, quand on se présente comme le premier intervenant commerce équitable, est-ce qu'on l'est vraiment? Parce que moi, j'ai noté que les volumes Max Avelar, ce n'est pas 100% des volumes importés.
Non.
J'ai noté aussi que la part du bio, c'est une part minoritaire dans les importations de Malongo. J'ai noté que vous aviez une machine éco, qui certes est une machine écologique, mais qui est nettement moins écologique que la cafetière classique italienne, par exemple.
Alors,
je remarque que vous avez des emballages en plastique.
Alors,
on en fait quoi de ces emballages?
Ça va, on n'est pas en plaidoirie. Tout va bien.
Ça fait beaucoup de questions.
Vous m'avez allumé. Vous m'avez lancé.
Oui, vous avez tout à fait raison et tout à fait tort à la fois. Vous avez raison sur l'idée que 100% de la société n'est pas en commerce équitable, parce qu'il y a des pays sur lesquels on n'a pas encore remonté de filière. Donc chaque année, on progresse sur le volume de commerce équitable. On fait aujourd'hui 60% de nos volumes. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et on progresse chaque année. Vous m'avez posé la question sur une machine fabriquée en France. Oui, c'est la première machine fabriquée en France, puisqu'il n'y a plus de fabricants en France. On travaille avec une société qui est renée de ses cendres et sur lesquelles on a fait une machine démontable, réparable, avec un système d'abonnement par Internet qui permet aux consommateurs d'être livrés chez lui. On répare à domicile en 24 heures. Donc, tout un nouveau modèle économique qu'on essaie de mettre en place comme le modèle économique du commerce équitable.
On parlait plastique aussi. Oui. Vous avez quand même été les premiers à penser, en tout cas, la dosette papier.
Alors, nous sommes les seuls à faire de la dose en papier naturel, en expresso, qui donne un excellent résultat. Donc, pas de plastique, pas d'aluminium. On est directement en contact avec le produit et les déchets sont beaucoup moins importants.
Aujourd'hui, c'est quoi les projets de Malongo? Vous arrivez à rivaliser? Vous parliez de Nespresso, justement, avec les gros du secteur. C'est votre ambition?
Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes bien en tant que PME, avec mes collaborateurs. L'idée, c'est un, de faire des produits de qualité, parce que c'est ça qui est important, de se faire plaisir en travaillant, d'avoir une croissance régulière, parce que sinon, on est mort, donc on fait des croissances entre 5 et 10% par an. Non, c'est de créer un modèle qui soit différent, de bâtir des choses avec les petits producteurs.
Avec les pays aussi, parce que vous installez de nombreux coffee shops.
Alors là, je repars à inaugurer, vous me prenez entre deux voyages.
Vous étiez aux Philippines, je crois.
Non,
vous y allez.
Je vais aux Philippines.
Le 13 décembre.
On est en train d'ouvrir les 25 boutiques à Manille, dont deux vont être inaugurées donc, le 13 décembre. Et donc, c'est pour nous une aventure, parce que tous mes collaborateurs sont en charge de ça. Donc, il y a une effervescence énorme dans la société. On essaie de dupliquer le modèle qui existe à Paris et à Nice et de l'impliquer sur un coffee shop différent autour de la gastronomie française et autour d'un produit un peu plus sain, moins fat, moins gras, etc.
Malongo, c'est combien de personnes aujourd'hui, Jean-Pierre Blanc?
Malongo, c'est 400 personnes, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle une grosse PME ou une petite ETI, hein, comme vous voulez. Et voilà, on se fait plaisir. On est présent dans la grande distribution. On est présent en hôtellerie-restauration avec les plus grands chefs, les grands hôtels. On est présent par Internet. On fait de la vente à distance, technologie aussi. Et on fait beaucoup d'exportations maintenant. On déploie surtout sur l'Asie notre qualité de produit bio, équitable. Et on essaie de faire passer des valeurs propres à la société, c'est-à-dire la qualité et le respect des gens avec qui on travaille.
Des valeurs et des messages. Merci Jean-Pierre Blanc d'être venu nous parler des cafés Malongo. C'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Merci
aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Organiser un événement, mais chez un particulier. C'est original, c'est vrai, mais c'est possible. Et c'est WePeps, c'est la solution sur Europe 1.
La France bouge, suite et fin, et on ne repart jamais sans une solution avec vous, Raphaël Duchemin. Solution des plus originales, aujourd'hui.
Oui, si on louait son logement, tiens, quelques heures pour arrondir ses fins de mois, c'est la solution d'une start-up, elle s'appelle WePeps. Elisabeth, l'idée, c'est de louer par exemple son salon ou un bout de son jardin pour une occasion particulière.
Absolument, louer son jardin, sa terrasse ou son salon à l'occasion d'un anniversaire ou pourquoi pas, tiens, pour fêter le réveillon. Cette plateforme qui s'appelle donc WePeps met en relation le loueur du bien et le locataire. Pas d'angoisse puisque l'entreprise génère automatiquement un contrat d'assurance pour chaque réservation. Il y a même une assurance forfaitaire et obligatoire à la charge du loueur.
Bonjour Léna Petersen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de WePeps. Comment est-ce qu'elle vous est venue cette idée et pourquoi WePeps tient d'ailleurs?
Alors l'idée elle est venue d'un constat simple. Si je n'ai pas la place chez moi, pourquoi ne pas organiser un événement chez quelqu'un qui en aurait davantage? Pourquoi WePeps? Pour l'aspect collaboratif. Ah. Le oui, le nous et Peps pour le côté pétillant, festif, voilà.
Alors chacun d'entre nous peut louer son logement ou il y a des critères particuliers pour pouvoir mettre son logement en location?
Alors chacun d'entre nous peut louer son logement. Je dirais que le minimum souhaitable serait d'avoir un lieu d'environ, enfin un espace d'au minimum 20 mètres carrés qui pourrait recevoir un événement. Quand je parle d'espace, je ne parle pas de salle de bain, de chambre. On parle d'un salon, on parle d'une terrasse, d'un jardin. Mais on va dire que le seul critère serait d'avoir un minimum de 20 mètres carrés pour pouvoir recevoir... des événements.
Parce que sur votre plateforme, on voit un peu des espaces atypiques.
Oui.
Aujourd'hui, on loue quoi chez vous?
Aujourd'hui, on loue effectivement des espaces atypiques, des maisons, des
comme
jardins, des châteaux.
Et alors, depuis quelques temps, vous facilitez aussi l'organisation. C'est-à-dire, une fois que vous louez l'espace, vous facilitez l'organisation de l'événement et vous mettez même à disposition un service de restauration.
Exactement. On propose effectivement de pouvoir réserver en ligne une formule traiteur. On a un partenariat avec deux traiteurs qui sont banquet.fr et Le Vélo du Soir. Et à terme, nous souhaiterions pouvoir proposer un panel de services pour pouvoir organiser son événement
une
directement.
Fête de A à Z avec
vous. Exactement.
Que dit le coach Mathieu Davy ?
Réflexe professionnel oblige, j'ai été lire les conditions générales de vente qui ont été rédigées par un excellent avocat et qui disent que vous n'êtes pas parti au contrat, que vous n'êtes pas responsable en cas de dégradation, que le seul locataire est responsable, que vous n'avez en fait aucune responsabilité. Alors qu'en fait, pendant ces soirées, eh ben, on peut peut-être boire de l'alcool, que ça peut durer tard, qu'il pourrait y avoir des mineurs. Et que, pardon, mais il y a des règles sur tout ça qui correspondent aux bars, aux boîtes de nuit, qu'il y a des déclarations à faire pour l'ouverture d'un bar, qu'il y a des déclarations SACEM si on met de la musique pour les auteurs, et heureusement que ça existe, qu'il y a des horaires de nuit, qu'il y a des réglementations en matière de stupéfiants. Donc vous, d'un coup de baguette magique, vous contournez tout ça ?
Alors, comment est-ce que vous avez réglé le problème ?
Alors, effectivement, nous sommes un site d'intermédiation, donc nous n'intervenons pas au moment de l'événement. Après, nous, on fait en sorte de cadrer au maximum l'événement. Déjà, l'hôte, par son règlement intérieur sur lequel il explique effectivement tout le cadre de l'organisation de l'événement. On propose également une caution permettant de responsabiliser les hôtes. Et effectivement, avec la caution, on les accompagne aussi pour qu'ils fassent un modèle d'état des lieux qui leur permette de faire un check-in et check-out facilement. On est là aussi, on est joignable très facilement pour accompagner nos hôtes. Et en parallèle, effectivement, effectivement, il y a le contrat d'assurance Maïf pour tous les locataires.
Combien ça coûte si j'ai envie de louer demain une piscine, par exemple ?
Alors, on a tous les prix. On va dire que sur la région parisienne, en Ile-de-France, ça peut commencer à 12 euros de l'heure parce qu'on est un système de on a un système de tarification à l'heure. Ça peut aller jusqu'à 450 si on parle d'une péniche qui va recevoir 250 personnes en face de Notre-Dame. En moyenne, on va dire que les événements qu'on a, c'est plus du 35-40 personnes sur un budget à l'heure qui varie entre 40 et 60 euros de l'heure.
Vous avez combien de personnes qui sont déjà venues demander vos services aujourd'hui ?
À l'heure actuelle, alors le site a démarré début janvier, nous avons déjà 200 événements qui sont passés sur WePeps.
C'est WePeps, c'est donc la solution aujourd'hui, Elisabeth, pour pouvoir peut-être arrondir ses faits de moi et organiser événement, qui sait. On va aller s'installer quelque temps pour un événement chez Mathieu Davy. Il a lu les conditions générales de vente. On verra ça. On se retrouve lundi.
À lundi,
merci
Raphaël.
Mathieu, à très bientôt.
Merci Raphaël.
Vous êtes sur Europe 1, 12h55.
C'était Raphaël Duchemin, merci Raphaël, à lundi. Et dans un instant, Ondelat raconte. Christophe Ondelat va revenir aujourd'hui sur une grande affaire criminelle du début du XXe siècle, l'affaire Soleillant, dont le retentissement a empêché l'abolition de la peine de mort en France, pourtant voulue par le président de la République de l'époque, Armand Falière. Nous sommes en 1907. Découvrez cette histoire à 14h précise sur Europe 1.